Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette édition de Géopolitique. Dans un mois, Donald Trump fera son entrée à la Maison Blanche. Son administration est presque complète, faite de profils plutôt atypiques, issus de la finance et du monde des affaires pour certains, de branches particulièrement conservatrices pour d'autres, et présence non négligeable des milieux militaires. Trois anciens généraux figureront dans la future administration Trump. Une situation inédite. La période qui s'ouvrira le 20 janvier prochain, date de la prise de fonction de Donald Trump, promet beaucoup d'incertitudes et peut-être aussi de rupture. Que sera la politique étrangère de Donald Trump? Et le président élu le sait-il lui-même, alors que son penchant pour Vladimir Poutine commence à lui nuire? Nos invités, Vincent Michelot, professeur des universités à Sciences Po Lyon, spécialiste des États-Unis, en ligne avec nous depuis le Massachusetts. Bonjour.
Bonjour.
Et Philippe Golub, professeur de relations internationales à l'Université américaine de Paris. Bonjour.
Bonjour.
Quelques nominations importantes pour les questions de politique étrangère. Rex Tillerson, secrétaire d'État de Donald Trump. Rex Tillerson a 64 ans, PDG d'ExxonMobil, un homme d'affaires qui n'a pas d'expérience gouvernementale, mais a noué des liens étroits avec plusieurs chefs d'État, dont le russe Vladimir Poutine, en négociant des contrats pétroliers. Nous aborderons cette question. À la Défense, James Mattis, 66 ans, général retraité, une figure légendaire de l'armée américaine, réputée pour ses qualités militaires et son franc-parler, mais aussi pour sa défiance vis-à-vis du régime iranien. Conseiller à la sécurité nationale, Michael Flynn, 57 ans, général à la retraite également, qui a connu une brillante carrière et qui est un pourfendeur de l'extrémisme islamique indulgent avec la Russie et la Chine. Et pour la sécurité intérieure, John Kelly, 66 ans, ancien marine qui a dirigé le commandement de l'armée américaine chargée de l'Amérique latine, troisième général a intégré la nouvelle administration. On parlera aussi des nominations pour le département du Trésor, le commerce. Mais rapidement, pour comprendre un petit peu la philosophie, on se souvient de Donald Trump, candidat des petites gens, qui a mené une campagne populiste sur le malheur des laissés pour compte, de la mondialisation, fustigeant la mainmise des élites et brocardant l'arrogance des puissants. Président élu, il s'entoure de milliardaires, de patrons de multinationales, de généraux, on l'a dit, ils sont trois, et d'anciens de la banque Goldman Sachs. Quelle analyse de l'équipe faites-vous l'un et l'autre, Vincent Michelot?
Je crois qu'il faut commencer d'abord par être d'une prudence extrême, puisqu'effectivement on a aujourd'hui les noms de ceux qui composeront peut-être, voire probablement, l'administration Trump. Mais pour autant, rappelons d'abord que Trump n'est pas encore président, que la quasi-totalité des noms que vous avez mentionnés devront être l'objet d'une audition devant la commission compétente du Sénat et d'un vote de confirmation, et qu'il n'est pas totalement impossible que l'un d'entre eux, ou voire un ou deux ou trois, y laisse des plumes.
Vous voulez penser à qui, Vincent Michelot?
Oh ben, on a en ce moment un débat autour de Tillerson qui s'est un petit peu apaisé dans les dernières heures, mais qui n'en reste pas moins extrêmement vif, même à l'intérieur du parti républicain. Et puis la dernière chose, c'est que on a très souvent tendance à prévoir la politique d'une administration en fonction de noms qui la composent, mais il faut rappeler que ce qui va véritablement compter, c'est la dynamique qui va se mettre en place en matière de politique intérieure, par exemple entre Rance Priebus, le secrétaire général de la Maison Blanche, et Steve Bannon. En matière de politique étrangère, est-ce que ce sera véritablement Tillerson qui aura la main mise sur cette politique, ou est-ce que le département de la Défense ou encore le vice-président, comme ça a pu être le cas par le passé, notamment avec Joe Biden, seront en quelque sorte le mâle dominant ou les mâles dominants de la dynamique des pouvoirs en ce qui concerne la conception de la politique étrangère. Est-ce que ce sera une politique étrangère qui sera plus orientée vers des objectifs qu'on qualifiera de commerciaux et donc qui porteront sur les enjeux en matière d'emploi et de rapatriement d'emplois manufacturiers vers les États-Unis, ou est-ce que ce sera une politique étrangère dont l'objectif premier sera la lutte contre Daesh ou la lutte contre l'expansion économique et militaire de la Chine. Donc je crois qu'on peut dire un certain nombre de choses, mais en même temps, il est très 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 tôt, et jusqu'au 20 janvier, et ensuite bien plus tard encore, puisqu'on aura les nominations on aura l'examen des nominations par les commissions compétentes du Sénat, on risque d'avoir à la fois un certain nombre de surprises et sans doute des réorientations.
On reviendra sur la question de l'examen des nominations. Philippe Golub, un commentaire ?
Oui, d'abord, convergence avec les propos de Vincent Michelot qui viennent d'être exprimés sur les incertitudes qui pèsent sur la composition finale du gouvernement Trump, mais en même temps une série de questions qui se posent, d'abord sur le centre de gravité idéologico-politique de cette administration. Si on essaye de distinguer les différents groupements de pouvoir ou structures de pouvoir qui semblent se coaliser autour de Trump actuellement, nous avons d'un côté des individus qui sont très liés à l'industrie énergétique américaine, nationale américaine, en particulier l'industrie pétrolière. Il n'y a pas moins de 5 de ces nominations, Rex Tillerson, Perry, à l'énergie, le nouveau directeur du Environmental Protection Agency, de l'Agence de protection de l'environnement, Scott Pruitt, le nouveau secrétaire de l'Intérieur, c'est-à-dire qui va s'occuper des questions de environnementales intérieures aussi, Ryan Zinke, et le secrétaire du Commerce, Wilbur Ross, qui ont des liens très forts avec l'industrie pétrolière américaine ou l'industrie charbonnière américaine. Donc il y a une très grande focalisation, il y a une très grande concentration de personnel qui ont des attaches très fortes à l'industrie, aux industries pétrolières et énergétiques américaines d'un côté. De l'autre côté, comme vous l'avez tous les deux remarqué, une forte concentration d'une présence militaire au sein de cette administration. Et puis finalement, bien sûr, les milliardaires, Goldman Sachs, et ceux qui sont ensuite du point de vue de Wall Street. Donc il est difficile pour l'instant de savoir quel est le véritable centre de gravité de cette administration. Il me semble, étant donné à la fois le discours permanent en dehors de ces incartades et des choses curieuses qui se passent la nuit avec les tweets et autre chose de genre, il me semble qu'il y a un discours permanent chez Trump qui doit être relevé, qui doit constituer quelque part le cœur de sa compréhension du monde. C'est l'idée de America First, l'Amérique d'abord, c'est-à-dire une politique nationaliste, une politique qui ne connaît pas encore ses contours, mais qui est une politique nationaliste et peut-être ultra-nationaliste, et qui s'affirmera dans divers domaines, mais en particulier, me semble-t-il, dans les domaines militaires et énergétiques, si ces nominations ont un sens idéologique, bien sûr. Il reste à savoir, évidemment, si les choix opérés vont rester ceux qui resteront à la fin du processus de passage par le Sénat.
Voilà, parce que effectivement, la question de l'examen des nominations se pose. Ça, ce sera l'étape qui va suivre. La question que je vous pose maintenant, c'est est-ce que Trump risque d'avoir du mal à justifier certains choix, notamment au niveau du Sénat, mais je pense aussi aux électeurs. On l'a dit, les promesses martiales, entre guillemets, semblent comblées, mais dans le domaine économique, les choses promettent d'être assez différentes. Est-ce que, c'est peut-être encore trop tôt pour le dire, mais finalement l'électorat de Trump se sent trahi d'une certaine manière, Vincent Michelot ?
Absolument pas. Et pour une raison qui est très simple. On peut avoir un électorat en partie populaire, mais là encore, il faut corriger les choses, c'est-à-dire que ce ne sont pas uniquement des hommes blancs non diplômés qui travaillent dans le secteur manufacturier qui ont porté Donald Trump à la présidence, mais quand bien même cet électorat est important, il le savait dès le départ. Il a a porté à la Maison Blanche un multimilliardaire qui vit dans une sur une planète qui est radicalement différente de Détroit dans le Michigan ou de Akron dans l'Ohio. On n'est pas ici dans ce qu'on appelle en sciences politiques la démocratie représentative au sens où elle est descriptive de la sociologie de l'électorat par rapport au groupe auquel appartient celui qui vous représente. Que ce soit des hommes d'affaires de Goldman Sachs qui conduisent la politique économique du pays n'est absolument en contradiction avec les promesses que Donald Trump a pu faire. Ce n'est pas ici le défendre, c'est simplement faire un constat. Le paradoxe que vous soulignez, il est dès le début inscrit dans l'élection de Trump lui-même, en tant que porteur des espoirs de cette catégorie d'électeurs. Par ailleurs, je crois qu'il faut souligner l'extrême importance du moment qui va s'ouvrir à partir du moment où le Sénat va aborder ses nominations, parce que Donald Trump a un besoin absolument vital d'un parti républicain en ordre de marche derrière lui pour conduire un certain nombre de politiques à la fois en matière intérieure et en matière extérieure, et que sur un certain nombre de questions, dont notamment la Russie, le candidat Trump et le président élu Trump est vent debout et à l'opposé extrême du consensus à l'intérieur du parti républicain. Et ce parti, il va aussi vouloir s'affirmer d'une certaine manière, et je crois que là aussi que c'est une chose très importante, il a beaucoup d'indépendance par rapport à Trump. On est dans une situation tout à fait inédite dans laquelle Trump ne doit pas son élection au Parti républicain, mais les républicains, notamment au Sénat, mais encore à la Chambre des représentants, ne doivent pas leur élection à Trump. Il y a une forme de très grande indépendance, en même temps qu'il y a une interdépendance, et il faut que le Parti de l'éléphant s'affirme dans ses options par rapport à un président qui se présente comme un pragmatiste qui n'a pas véritablement de grandes options à défendre.
Alors, on reste sur cette question des républicains et je me tourne vers vous, Philippe Gouloup, simplement pour rappeler et préciser les choses pour nos auditeurs. D'abord que donc la CIA a publiquement confirmé la responsabilité des Russes dans le piratage des courriels du Parti démocrate et le bombardement des informations sur Internet avant les élections, ostensiblement dirigé contre Hillary Clinton. Obama a sommé les 12 agences de renseignement américains d'établir le fait avant son départ en janvier afin d'éviter que le prochain gouvernement n'enterre l'affaire. Et on voit aujourd'hui les républicains du Sénat procéder à un revirement d'une certaine manière. John McCain qui a promis de tirer au clair les relations de Tillerson, donc le secrétaire d'État nommé, donc ses relations avec Poutine lors des auditions en commission des affaires étrangères de 2017. Et Mitchell McConnell, le président du Sénat, qui a annoncé que sa majorité approuvait l'enquête. Tout ça sont des révélations qui pourraient miner l'exécutif. En tout cas, on voit bien les républicains prendre position de manière assez indépendante vis-à-vis de Trump. C'est ce que disait à l'instant Vincent Michelot.
Oui, alors il y a toute une série de problèmes qui se posent du point de vue du fonctionnement futur des institutions de la République américaine. Donald Trump est rentré déjà, avant même qu'il ne soit président, dans un conflit majeur avec une des institutions clés de l'exécutif américain qui habituellement est aux ordres de la présidence, la Central Intelligence Agency, la CIA, au sujet justement des questions relatives à la Russie, au piratage informatique électronique aux États-Unis de la part des services russes, semble-t-il. Un conflit assez aigu puisque le président lui-même, le président a annoncé publiquement qu'il ne croyait pas aux analyses de cette institution. Il n'a pas non plus, il est en conflit aussi avec le département d'État. Il n'a pas fait appel au département d'État lors aux experts, donc des affaires étrangères, des spécialistes, lors de ces différentes conversations et rencontres internationales de ces dernières semaines. Et en particulier, on l'a vu lors de la visite de Shinzo Abe à Washington Washington, à New York, pardon, à la Trump Tower, que Shinzo Abe avait été reçu par le gendre et la fille de Trump, ainsi que Trump lui-même, sans expert à ses côtés. Donc il est déjà en conflit, déjà rentré en conflit avec les institutions permanentes de l'État américain, et bien évidemment, on ne peut pas gouverner contre les structures institutionnelles permanentes d'un pays sans les casser complètement auparavant. Je veux dire, on est là dans quelque chose de très particulier, n'est-ce pas? Je pense que, in fine, ce sont les institutions qui prendront le pas sur la présidence, car le président n'a pas assez de poids politique, ni de légitimité politique pour pouvoir imposer sa loi personnelle, individuelle, idiosyncratique sur la totalité des institutions de l'État. Je voudrais rajouter ceci, c'est que si effectivement Trump n'a pas un problème important avec sa base, la base qu'il a élue, qu'elle soit des petites classes moyennes ou des classes moyennes supérieures blanches, il a un problème quand même de légitimité. Il reste qu'il y a un problème de légitimité plus large de cette présidence qui quand même a été très mal élue. Hillary Clinton a 2,8 millions de voix d'avance sur Trump au niveau du suffrage universel. Il y a des États importants, très importants d'ailleurs, comme la Californie, 6e économie du monde, qui ont annoncé déjà publiquement qu'ils ne mettraient pas en œuvre des mesures d'expulsion d'immigrés comme l'annonçait Trump. Il est probable que l'État de New York et d'autres plus petits États du nord-est, du couloir nord-est des États-Unis suivent le pas. Donc on est là dans les débuts, si la dynamique continue de confrontation, continue, la dynamique d'une crise institutionnelle importante, qui, à mon avis, ne profitera pas au président mal élu.
Alors, pour terminer cette première partie d'émission, j'ai presque envie de résumer ce que vient de dire Philippe Golub, Vincent Michelot. Légitimité de Trump en question, avec cette question de l'électorat et Hillary Clinton qui l'aurait emporté si le vote populaire avait l'importance qu'il peut avoir dans un pays comme la France. C'est pas le cas aux États-Unis. Est-ce qu'on va vers une présidence impossible pour Donald Trump?
Non, je crois qu'on va pas vers une présidence impossible pour une raison assez simple, c'est que, et là, pour une fois, je serai en léger désaccord avec mon ami Philippe Golub, je crois que le système électoral américain n'est pas véritablement contesté, en particulier à l'intérieur du pouvoir politique washingtonien, et que ce qui va compter véritablement, c'est le rapport de force qui va s'établir avec le Congrès, c'est la capacité des agences, notamment de la CIA, mais aussi éventuellement plus tard du FBI, de se faire entendre et de se faire respecter dans leurs prérogatives constitutionnelles. Et puis, c'est aussi la capacité du président Trump à, dès le discours sur l'état de l'Union qu'il prononcera, à articuler un certain nombre de priorités fortes et de dissiper cette espèce de désordre sans méthode et sans objectif précis. Cette impression aussi que un certain nombre des nominations ont été faites avec un examen plus que cursif de la personnalité des candidats.
Examen cursif.
Oui, et puis chacun l'aura noté, le fait par exemple de faire fuiter l'idée d'un secrétariat d'État pour Mitt Romney, c'était tout simplement une forme de vengeance extrêmement cruelle, sachant que tous les conseillers et la famille de Donald Trump qui l'entourait étaient totalement opposés à cette idée. Mitt Romney Romney ne serait pas le futur secrétaire d'État, mais pendant tous les moments où on a envisagé l'idée, c'était une forme de torture à la chinoise, et il a bien humilié, en quelque sorte, celui qui avait été aussi critique de sa nomination.
Géopolitique, nous retrouvons nos invités Vincent Michelot et Philippe Golub dans quelques instants. À tout de suite.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique, regard sur les États-Unis. Nous retrouvons nos invités Vincent Michelot, professeur des universités à Sciences Po Lyon, spécialiste des États-Unis, par téléphone avec nous depuis le Massachusetts. C'est Philippe Golub, professeur de relations internationales à l'université américaine de Paris. Nous l'avons dit dans la première partie de l'émission, la vision que l'on peut avoir aujourd'hui des intentions de Donald Trump, c'est bien sûr ce qu'il avait dit durant sa campagne America First. Qu'est-ce que cela veut dire en termes de politique étrangère? Finalement, quelles sont et quelles vont être les priorités du nouveau président à compter du 20 janvier prochain, Philippe Golub?
Alors, c'est très difficile à dire, bien évidemment, puisqu'il n'est pas du tout sûr que Donald Trump ait lui-même une idée claire de ce que doit être la politique internationale des États-Unis sous sa présidence. Je ne suis pas tout à fait sûr que Donald Trump s'est lancé dans la course à la présidentielle en croyant véritablement qu'il allait gagner. D'ailleurs, je pense exactement le contraire. Il n'a pas de programme, il n'a pas une vision claire. America First, cependant, fait référence à une idée assez générale et puis un concept plus spécifique. L'idée générale, c'est de donner priorité aux intérêts nationaux américains définis de façon très exiguë, n'est-ce pas? Ça impliquerait une réelle politique très affirmée, ne tenant pas du tout en compte la dimension internationaliste libérale qui a été celle des États-Unis depuis 1945 et qui avait au moins un double discours, un discours sur la démocratie et les droits de l'homme d'un côté et un autre discours et une pratique qui était plus réaliste. Là, il y aurait simplement, crûment et nettement, une politique réaliste de mise en œuvre des intérêts nationaux américains. Le problème étant, à ce moment-là, de définir précisément ce que sont les intérêts nationaux des États-Unis dans un monde très complexe et interdépendant. Donc, il n'est pas du tout sûr que Trump sache dans quelle direction il irait. Je pense que cela veut dire America First, quand même, une politique qui mettrait l'accent sur les intérêts économiques de base et politiques et stratégiques de base des États-Unis dans les diverses régions du monde où les États-Unis sont impliqués. Ça n'implique absolument pas une politique isolationniste qui n'est pas pensable depuis que les États-Unis se sont internationalisés depuis 1945. Et c'est une erreur d'appréciation européenne, me semble-t-il, assez courante de penser que l'unilatéralisme américain qui caractérise le nationalisme et la réelle politique des conservateurs de type Trump, s'assimile à de l'isolationnisme. L'unilatéralisme est une politique de puissance, une politique de puissance qui se distingue de celle des internationaux libéraux.
Vincent Michelot.
Oui, je crois qu'il est absolument impossible, avant la fin du mois de janvier, le discours de l'État de l'Union, un certain nombre, et l'annonce des priorités, de dire où va précisément l'administration Trump. Il y a aussi, et je voudrais encore en rappeler l'importance, la création d'une dynamique avec le Congrès. Est-ce que, par exemple, les républicains au Congrès accepteront le financement de la construction du mur? Est-ce que les
républicains... de séparation d'avec le Mexique.
Oui, absolument. Et ce n'est pas parce que le candidat Trump a annoncé qu'il le ferait financer par le Mexique que qui que ce soit au Congrès croit à cette option. Personne dans les cercles diplomatiques, les cercles internationaux, au Congrès, ne pense que le président des États-Unis a la capacité d'imposer à un pays qui plus est membre du plus grand accord de libre-échange au monde, à savoir l'ALENA, puisse imposer à ce pays la construction d'un mur pour l'isoler de son partenaire économique. Donc on a cette incertitude. On a aussi une incertitude sur la relation qui va s'établir d'un point de vue commercial avec la Chine, puisqu'il faut rappeler que l'administration Trump mettait éventuellement en place des barrières douanières ou des tarifs douaniers très élevés, les premiers à souffrir de ces mesures seraient des consommateurs américains qui font leurs courses dans des chaînes de grande distribution comme Walmart, où la plupart des produits de première nécessité, mis à part les produits alimentaires, sont fabriqués en Chine. Et donc, que dire à cet ouvrier de Pennsylvanie lorsque ses dépenses augmenteront de 15 à 20% suite à la mise en place de barrières douanières. Donc je crois qu'il faut être là encore très très prudent, et puis on ne connaît pas non plus l'état du monde à la fin du mois de janvier 2017. On a vu que la ville d'Alep était tombée et que aujourd'hui on va avoir une nouvelle étape dans la guerre civile en Syrie. Lorsque le président Trump prendra ses fonctions le 20 janvier 2017, il va trouver devant lui un ordre international qui sera là encore assez différent de ce qu'il peut être au jour d'aujourd'hui. Donc il faut bien regarder en particulier quelle sera la négociation entre le leadership républicain en matière de politique étrangère au Congrès, et puis de l'autre côté, l'équipe Trump telle qu'elle s'en met en place et dont on ne connaît pas encore les grandes figures ou ceux qui la domineront.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Donc finalement, ce que j'entends avec ce que vous dites l'un et l'autre, Philippe Golub et Vincent Michelot, c'est que, bon, d'une part, la ligne directrice de Trump en politique étrangère, on ne la connaît pas, il la connaît pas peut-être lui-même non plus. En tout cas, en fonction des nominations qui ont été faites ces derniers jours, si elles venaient à être confirmées, Rex Tillerson, secrétaire d'État, rapprochement avec la Russie, est-ce qu'on va vers une levée des sanctions vis-à-vis de Moscou? La question se pose. Il y a aussi James Mattis à la Défense, que l'on sait particulièrement méfiant vis-à-vis du régime iranien. Alors on sait que l'accord avec l'Iran ne pourra pas être détricoté, mais peut-être renforcé, ou en tout cas plus d'exigences vis-à-vis de Téhéran. Également, Michael Flynn, conseiller à la sécurité nationale, pourfendeur de l'extrémisme islamique, plus indulgent avec la Russie et avec la Chine. Tout cela, bien sûr, d'une part, si les nominations sont confirmées par le Sénat, à majorité républicaine, mais dont on a dit que les républicains cherchaient à prendre une certaine distance. Finalement, bon, on est dans un brouillard, effectivement, parce que le monde ne sera peut-être pas ce qu'il est aujourd'hui le 20 janvier prochain. Mais finalement, qu'est-ce que l'on sait, au-delà de tout cela, pour prendre un petit peu de hauteur, d'une éventuelle vision du monde défendue par Trump aujourd'hui, Philippe Golub?
Oui, il ne faut pas sous-estimer le degré d'irrationalité qui peut intervenir en politique quand même. Effectivement, il y a les équilibres institutionnels, il y a le Congrès, les deux chambres du Congrès, mais une fois installé à la Maison-Blanche, Donald Trump aura une très grande marge de manœuvre en politique internationale, et je pense que sa politique internationale sera révélée au fur et à mesure de sa présidence du fait des réalités objectives du monde, du système international et du système mondial. Je pense qu'il sera très tôt testé par la Chine. Les grandes puissances sont interdépendantes, certes, mais se regardent face à face et croient non pas aux mots, mais aux actes. Et donc, il sera testé, que ce soit en mer de Chine du Sud ou ailleurs. Je ne sais comment la Chine le fera, mais il sera testé là.
Philippe Golub, test qui a déjà commencé entre Chinois et Américains. Je pense au coup de téléphone qu'il y a eu avec la présidente de Taïwan. Oui. Voilà. Est-ce que ça va être utilisé comme un effet de levier dans la relation avec la Chine? La question se pose. En tout cas, Pékin et Washington se testent déjà.
Oui, mais là, le test sera beaucoup plus important que le jeu symbolique de Trump avec Taïwan. Encore une fois, je ne sais pas si c'était parfaitement bien pensé ou non. Je ne sais pas si c'était un élément de politique ou simplement une humeur de la part de Monsieur Trump. Il sera testé par la Chine, il sera testé en Asie, il sera testé au Moyen-Orient, il sera testé ailleurs. Et c'est devant les réalités du monde qu'on verra une politique cohérente ou non s'établir du côté de l'autre côté de l'Atlantique. Pour l'instant, effectivement, je ne pense pas qu'il y ait une idéologie cohérente, à part un nationalisme dont on ne connaît pas les contours exacts, puisque Trump lui-même ne les connaît pas.
Vincent Michelot.
Alors je crois qu'il faut aussi comprendre, pour expliquer ce contexte dont Philippe parle avec talent, que la diplomatie américaine, aussi puissante fut-elle, ne peut pas jouer sur tous les fronts. Et ce qui est surprenant d'une certaine manière, c'est que Donald Trump, dans sa campagne et puis jusqu'à aujourd'hui, s'est attaqué à tout. Les grands paradigmes de l'équilibre international qui sont véritablement signifiants. Le premier paradigme, c'est évidemment celui sur l'OTAN, qui nous concerne très précisément. Le deuxième paradigme, c'est sur celui de la Chine unique. Le troisième paradigme, c'est sur les grands accords internationaux, sur notamment l'ALENA, mais aussi sur les deux grandes négociations autour du TPP et du TAFTA.
Pacifique d'un côté pour l'Atlantique de l'autre.
Voilà. Et donc, systématiquement, et puis on voit là encore que il nomme un ambassadeur en Israël qui s'attaque à une des questions les plus sensibles et les plus déstabilisantes dans la région, à savoir le transfert de la capitale de Tel Aviv vers Jérusalem, qui est une forme d'affront supplémentaire fait aux Palestiniens. Et on sait très bien que le président des États-Unis, la diplomatie américaine, n'a pas les moyens d'aller jusqu'au bout dans la remise en cause systématique de tous ces paradigmes. Il va bien falloir faire des choix, il va falloir affirmer des priorités, et là, il est très probable que ce seront plus les hommes de l'ombre, ceux qui ne sont pas soumis à une confirmation par le Sénat, qui auront plus l'accès au président. Je pense à Bannon, je pense à Flynn, le conseiller à la sécurité nationale, plus qu'à ceux qui seront sur le devant de la scène et qui porteront et incarneront la diplomatie américaine, même s'il s'agit par exemple de Rex Tillerson ou du général Mattis.
Alors, la nomination de l'ambassadeur américain David Friedman à Jérusalem fait partie des ruptures envisagées par Donald Trump. Pour aller plus loin par rapport à ce que vient de dire Vincent Michelot, Philippe Golub, finalement, quand j'entends que Donald Trump va devoir affirmer des choix, la presse européenne, la presse française notamment, titrait ces derniers jours sur les différents points de rupture de la politique à venir de Donald Trump. Tout cela n'est pas acquis.
Il reste à savoir, il y a une grande question de sciences politiques d'ailleurs, de savoir si finalement ce sont les structures sociales, les structures institutionnelles qui prévaudront sur l'individu, ou si dans des circonstances historiques très particulières, des individus très particuliers, pas nécessairement porteurs de génie d'ailleurs, peuvent faire changer le cours des grands événements mondiaux, le cours des choses, n'est-ce pas ? Si Donald Trump va au bout de la logique de ses nominations, l'ambassadeur en Israël, la remise en cause de la politique de la Chine unique, the One China Policy, la remise en cause de l'OTAN, etc., je ne crois pas qu'il le fasse.
Et on n'a pas parlé d'un climato-sceptique à l'environnement, ni de l'intention de baisser le soutien financier à l'ONU. Enfin voilà, ça fait pour compléter un petit peu le panorama que vous évoquez à l'instant. Pardon de vous avoir coupé, Philippe Delu.
S'ils vont au bout de cette logique-là, il y aura des ruptures inévitables dans l'ordre international, avec des effets tout à fait imprévisibles. Je ne sais pas s'il faut y croire ou s'il ne faut pas y croire, mais il faudra quand même, dans les mois à venir, regarder de très très près et analyser de très près, et ne pas sous-estimer la possibilité d'un retour du tragique dans l'histoire, puisque l'histoire n'est pas finie.
Les analystes de politique et de relations internationales que vous êtes l'un et l'autre se trouvent devant une situation inédite. Je veux dire, la présidence à venir de Trump nous fait comparer certains éléments avec ce qui s'est passé avec Ronald Reagan en son temps. On est sur des schémas finalement assez différents, Vincent Michelot.
On est sur des schémas complètement différents parce que j'entends beaucoup, je lis beaucoup en France l'idée selon laquelle il y aurait peu de différence entre Ronald Reagan et Donald Trump, que l'un et l'autre auraient été inexpérimentés. Et ça, c'est quelque chose contre lequel je m'insurge littéralement. Lorsque Donald Trump arrive à la Maison Blanche en 2017, il n'apporte avec lui aucune expérience de l'État. Sous quelque forme que ce soit, il n'a jamais eu de mandat électif, il n'a jamais été véritablement intéressé par la politique, sauf lorsqu'il s'est agi de remettre en question la qualité même de Barack Obama à être président des États-Unis, parce que selon lui, il n'aurait pas été né sur le territoire des États-Unis et ne serait donc pas constitutionnellement qualifié pour la fonction, alors que lorsque Ronald Reagan entre à la Maison Blanche en 1981, il a déjà été gouverneur de Californie, donc la sixième puissance mondiale pendant deux mandats. Il est un de ceux qui a contribué dans les années 1960, notamment autour de la campagne de Barry Goldwater en 1964, à rénover en profondeur le conservatisme américain. Il était l'élu de ses pairs à Hollywood et il a mené un véritable combat dans un sens conservateur à l'intérieur des institutions du cinéma américain. C'est un élu avec une énorme expérience qui arrive à la fonction suprême. Ce n'est pas le cas de Donald Trump. Et d'autre part, il y avait des structures internationales qui étaient celles d'un monde bipolaire dans la dernière décennie de la guerre froide, qui étaient des structures extrêmement résilientes et fortes et structurantes, alors que on est aujourd'hui dans un monde qui n'est pas bipolaire et qui présente des risques de type très divers entre la menace terroriste, la prolifération nucléaire et le risque climatique et des conflits de moyenne intensité dans des zones très différentes du monde, avec un président, une fois de plus, qui n'apporte avec lui aucune expérience de la chose internationale et surtout, et je crois que c'est peut-être le plus inquiétant, une appétence ou un intérêt relativement faible par rapport à l'approbation très césariste de sa propre personne et une volonté d'être le sauveur de l'Amérique. Et je crois qu'il ne faut pas être politiste pour se méfier des hommes qui aiment se présenter en tant que sauveur.
Approbation très césariste de sa personne, Vincent Michelot, je vous ai bien compris. Jules César ?
Oui, absolument.
Philippe Golub ?
Oui, tout à fait. Césarisme, personnalité autoritaire, autoritarisme politique, inscrite dans la personnalité de Donald Trump et inscrite dans l'histoire de sa famille, son père qui était d'extrême droite, qui était membre d'organisation d'extrême droite, John Birch Society, qui n'était pas loin du Ku Klux Klan. Personnalité autoritaire, effectivement, il me semble utile et utile, comme l'ont souligné un certain nombre de chercheurs aux États-Unis récemment, de se référer aux travaux de l'école de Francfort dans les années 40 et à la fin de la guerre sur justement les caractéristiques des personnalités autoritaires fascisantes, des études très détaillées qui ont été menées par divers chercheurs de cette école de sociologie politique. Pour comprendre ce qui se passe, nous n'avons pas là devant nous une personnalité ordinaire de la politique issue des institutions politiques traditionnelles. Il ne peut même pas être comparé à Richard Nixon, qui avait aussi un côté autoritaire, irrationnel, parfois violent, et qui dans sa politique internationale avait un côté quand même plutôt unilatéral dans la mise en œuvre de ses politiques, dont par exemple quand il a mis fin aux accords de Bretton Woods, parce que Richard Nixon avait quand même une vision stratégique, n'est-ce pas, une vision stratégique qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, mais une vision stratégique qui a mené à l'accord avec la Chine et le basculement qui a eu lieu pendant la guerre froide. Donc on est là dans une vraie figuration de autre. C'est-à-dire, il faut retourner dans le passé plus lointain, me semble-t-il, au 19e siècle, pour trouver des démagogues, des personnalités autoritaires de ce type aux États-Unis, ayant eu des fonctions importantes à la présidence. Et donc nous sommes devant quelque chose d'assez difficile à cerner au plan de la science politique.
Merci. C'est la fin de Géopolitique. Merci à nos invités. Vincent Michelot, professeur des universités à Sciences Po Lyon, spécialiste des États-Unis, et Philippe Golub, professeur de relations internationales à l'Université américaine de Paris. Vous pouvez retrouver l'émission sur le site internet de RFI, www.rfi.fr, également sur Facebook, Géopolitique, le débat. Émission signée Marie-France Chatin et Victor Hull. À demain.